France Musique. Les grands entretiens, François Bonnet.
Bonsoir, c'est Eliane Radig, compositeur ou compositrice, comme il vous plaira. J'ai bientôt 88 ans et je continue à sévir dans cet univers du sonore.
Eliane Radig, bonsoir.
Bonsoir.
Dans les précédentes émissions, nous avons évoqué ensemble votre jeunesse et puis votre apprentissage de la musique concrète. Mais il y a une autre figure importante qui joue un rôle déterminant, il me semble, dans votre longue initiation. Cette figure, c'est une ville, c'est New York.
Eh bien, les États-Unis, j'ai commencé à les fréquenter à la fin des années 50, lorsque Armand a eu sa première exposition, c'était la Galerie Cordier, je crois. Et puis, j'ai eu l'occasion, dans le début des années 60, nous avons eu l'occasion de passer un an en famille, mais les enfants allaient au lycée français, grâce au premier contrat avec Sidney Janisse, qui nous a permis de vivre sur place un an. Et c'est là où j'ai rencontré toute la scène artistique américaine, à la fois dans le monde des arts visuels, de Rauschenberg à Jasper Johns, enfin tous les grands noms. J'ai surtout été à cette époque-là, c'est James Tinney, que j'ai rencontré par le biais de sa femme, Carolie Schneemann, que connaissait Armand. Et donc, j'ai fait la connaissance de James Tinney. Il est devenu en quelque sorte mon guide dans les méandres du monde musical. Et c'était une période particulièrement intense à New York, parce que la plus grande difficulté était le soir de choisir où aller et quoi faire, parce qu'il y avait partout soit des vernissages, soit des concerts. Je me rappelle à John Cage dans un loft, dans tous les lofts de downtown, enfin de Soho plus exactement. C'était là où commençaient des lofts, mais les lofts pas du tout ce qu'ils sont devenus maintenant, hein. C'était les lofts encore bruts de décoffrage, mais où tous les soirs il y avait des événements formidables. On sortait peut-être pas tous les soirs, mais presque quand même. Mais alors, et donc c'est comme ça que j'ai découvert la scène américaine.
Thank you.
C'est là également, un peu plus tard, toujours grâce à James Tinney, j'ai rencontré Phil Glass et...
Steve Reich.
Oui, qui travaillaient, à l'époque, ils travaillaient encore ensemble d'ailleurs. C'était avant de se séparer. Et c'est Steve Reich qui m'a présenté à Michael Tchaïkovski, qui est le directeur du studio de NYU, où
donc
avait
New
été
York,
installé
New York University.
Oui, où Morton Subotnick avait installé le premier boucla. Et donc le boucla était le premier instrument avec lequel j'ai fait connaissance. À ce moment-là, nous n'étions pas encore, nous étions séparés, mais nous n'étions pas divorcés. Armand, entre-temps, était devenu résident américain. Et donc, avant de divorcer, sous prétexte de le rejoindre, j'ai eu la fameuse carte verte, je l'ai encore. Et avec mes enfants, à l'automne 70, sur l'année 70-71, nous sommes allés nous installer à New York. Nous avions un loft, nous aussi, avec les enfants, qui était très près de la 8e rue où étaient les studios. Et donc, c'est une année où j'ai... cultivé beaucoup cette amitié avec Phil Glass et Steve Reich. Steve Reich, à cette époque, avait travaillé avec les voix. Il m'avait demandé un jour, comme il savait que j'avais fait du chant choral, il voulait entendre, pour qu'il l'entende, pas seulement dans sa tête, mais qu'il l'entende avec une voix. Il m'avait invité à participer, mais je lui avais dit, sorry, mais je suis venu pour mon propre travail. De la même façon qu'un jour où il avait besoin de magnéto, parce que j'avais emporté mon matériel. J'avais aussi mon petit studio privé dans ma chambre. Parce que nous étions trois à utiliser le studio cette année-là, Laurie Spiegel et Rich Chatham. Et donc, on notait derrière la porte, sur le bulletin, les heures que l'on souhaitait. On se croisait quelquefois, mais on a fait connaissance, surtout après. Et donc, alors les trois premiers mois, je me suis demandé ce que j'étais venue faire là, parce que après avoir fait le tour de tous les super effets, juste en tournant en potentiomètre, on a plein de trucs fantastiques, pas forcément intéressants, mais bon, éliminés. D'ailleurs, j'ai un cahier que je vous ferai voir un jour, où j'ai Until a Burst, So What, qui étaient des essais divers et variés que je faisais et que j'éliminais jusqu'à ce que je trouve un tout petit chemin beaucoup plus délicat et discret, et qui est celui que j'ai adopté au début du deuxième trimestre là-bas, et qui m'a permis la réalisation de la toute première pièce électronique Cryptus, et dans lequel j'utilise effectivement le vocabulaire que j'avais déjà développé avec les feedbacks, c'est-à-dire son tenu et battement, à ceci près que le son tenu évolue jusqu'au battement pulsation, et ce que je ne pouvais pas faire, mais là ça pouvait être fait avec les potentiomètres.
France Musique, les grands entretiens d'Eliane Radig.
Cryptus s'inscrit de la même façon que Number 17 a été la dernière pièce des feedbacks. Cryptus a créé le lien avec ce que je faisais avec les feedbacks. Et donc, après cette année à New York où j'ai essayé de voir les studios, il y a eu très peu d'appareils modulaires. Il y avait le Moog, évidemment, le Bukla. Il y avait aussi l'électrocomp, je ne sais pas ce qu'il est devenu, et il y avait évidemment l'IMS anglais. Et c'est là où j'ai un jour, dans une exposition, découvert le harp.
Mais avant d'arriver à ce moment fondateur de votre musique, le harp, Eliane Radig, vous mentionnez Cryptus. C'est en fait à New York que votre musique a été donnée pour la première fois en concert.
Oui, oui.
Comment
oui.
Cela s'est-il passé?
Bien, comme toujours dans ma vie, c'est toujours des incidents qui apparemment n'ont rien à voir. Un couple de nos amis, Bernard Venet, que vous connaissez sans doute, peintre, s'était marié. Ils étaient allés au mariage et le témoin était Donald Karshan, je crois que c'était son nom, qui dirigeait le Columbus Circle qui est dans le sud-ouest de,
en bas de, Central,
parc,
Park.
De Central Park. Bon, nous avions sympathisé lors de ce mariage et je lui avais dit évidemment ce que je faisais à New York et très poliment, il m'avait dit oh, « bah, ça m'intéresserait » et un soir, il avait carrément sonné, à l'époque on prenait pas nécessairement rendez-vous par téléphone avant de se manifester. Je venais juste de terminer Cryptus et il me demande de lui faire entendre quelques minutes, je dis non. Non, ça dure 20-25 minutes, je me rappelle plus quelle durée, mais ou c'est tout ou rien. Bon, on s'était assez mal barré. Hein. Puis après, il me dit, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez pour un concert à Columbus Circle? Je me rappelle plus quel est le nom, il y a un nom, le studio a un nom, enfin, c'est un petit auditorium de 40-50 personnes. Mais bon, c'est comme ça que Cryptus donc, a été mon tout premier concert à New York et a été donné en création. Et j'avais établi trois variations, à la fois sur justement cette désynchronisation, sur les volumes, sur... Ben, ce concert a été donné avec trois différentes interprétations de cette même pièce. Et c'est vrai qu'il a été extrêmement bien reçu, puisque le lendemain, Paul Jenkins apportait chez moi cette... Magnifique Flamme, qui est un hommage à ce premier concert. J'ai eu énormément.
Enfin, vraiment, ouais, c'est une peinture qui est à la place d'honneur de votre salon.
Enfin, et d'ailleurs, la dédicace en est faite. C'est Phenomenal Sans Radig. Puisque ses œuvres, à l'époque, il les appelait Phenomena. Donc, c'est Phenomena. Et c'est vrai que, puisque Donald Karshan, devant le succès de ce premier concert, il a voulu que j'en fasse un deuxième. Là encore, j'ai dit non. Et maintenant, c'est fait, donc... Ben, finalement, je vais avoir un sale caractère. Hein.
Thank you. Alors Eliane Radig, vous évoquez justement ces contacts, ces liens, James Tinney, ce premier concert à New York. Comment, en tant que femme compositeur, vous percevez finalement cette différence de monde qui paraît assez évidente entre le New York des années 60 et Paris?
Bon, bah, la première chose, c'est le féminisme. Hein. Pierre Schaeffer et Pierre Henry, hein, c'était des super machos. Et tout se passait très bien au studio d'essai, dans la mesure où j'étais très, très discrètement la stagiaire qui pouvait faire des montages à l'infini. Mais si j'avais prétendu à cette époque-là être moi-même musicienne, je ne crois pas que j'aurais été aussi bien accueillie. Si on revient à cette période du studio d'essai, je venais comme la passionnée de musique et de ces techniques que j'étais. J'étais acceptée en tant que telle, mais je n'avais aucune prétention à un professionnalisme quelconque. Après, j'étais l'assistante de Pierre Henry. Alors qu'à New York, la chose la plus étonnante, c'est que j'étais immédiatement acceptée comme un père, enfin, ou une père. Enfin,
Eliane Radig, vous avez donc eu cette époque new-yorkaise, mais ensuite, New York, c'est quand même une ville que vous avez continué à visiter régulièrement.
Régulièrement, oui, chaque année.
Mais pour le premier départ de New York vers Paris, vous n'êtes pas reparti les mains vides. Vous êtes reparti avec un synthétiseur, le RP oui. 2500, qui sera le personnage central de notre émission de demain.
Et oui, j'insiste beaucoup sur le fait que c'était celui de ma première rencontre, puisque dans la série très courte des RP 2500, il porte le numéro 71001. C'est le premier de la série, 71 étant l'année de sa conception et construction, et 1, et c'est avec lui que je me suis mariée pendant 40 ans. Voilà.
C'est sur cet extrait d'Artésis, une œuvre d'Éliane Radigue qui date de 1973, que s'achève cette troisième émission. Rendez-vous demain pour la suite des grands entretiens avec Éliane Radigue. Prise de son Yann Fressy, mixage Pierre Monteil, attaché d'émission Flora Sternadel, réalisation Christine Amado.
À réécouter sur francemusique.fr.